Shalom, shalom, bonjour à tous mes frères et sœurs, bienvenue dans ce temps de partage. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons partager, c'est garder le silence et maîtriser sa langue. Alors pour commencer dans le vif du sujet, on va regarder dans Proverbe 17, verset 28, on dit « L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Dieu nous avertit sur l'importance de garder le silence à de nombreuses reprises dans sa parole. Et ce verset nous dit que même quelqu'un qui ne fait pas de Dieu son fondement personnel, s'il se tait, il passe pour quelqu'un de sage aux yeux des autres. Alors en réalité, Dieu sait combien il est salvateur de savoir se taire. Alors pourquoi Dieu nous demande si expressément de pouvoir nous taire, en fait, de réussir à nous taire? Quoi de plus opposé, en fait, qu'un sage et qu'un insensé? Dieu est formel, se taire et le début de la sagesse et de l'intelligence. Alors, de nombreuses situations auxquelles nous sommes confrontés, tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous poussent à ne pas garder le silence, mais plutôt à savoir parler plus fort que les autres, ou à savoir s'exprimer impeccablement en public. Parce que le monde nous apprend à avoir du répondant, pour être bien, pour paraître quelqu'un de fort, avec un fort caractère. Il faut savoir se défendre avec une langue bien aiguisée. Mais nous, la parole de Dieu nous dit que notre épée, notre parole, en fait, la parole de Dieu, est une épée à double tranchant. Donc on n'a pas besoin, en fait, de savoir vraiment quoi dire. Le Seigneur nous guide par son esprit. Et il nous a même dit dans un des versets, n'ayez pas peur de ce que vous aurez à dire devant les tribunaux. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc par mon esprit, il a dit. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Et dans ce monde-là, en fait, lorsqu'on arrive à se défendre avec une langue très aiguisée, c'est ce qui fait en général de nous un bon combattant ou quelqu'un de puissant aux yeux des autres. Alors qu'en fait, nous, les enfants de Dieu, on n'a pas besoin de ça. On a la parole. Voilà, c'est notre épée. Et l'Esprit de Dieu pour nous conduire. Alors comment savoir se taire, en fait, face à de fausses accusations ou à des insultes, à des attaques verbales? Déjà, il faut bien connaître son ennemi, et on sait que notre pire ennemi, c'est Satan. C'est Satan parce que il a toujours détesté Dieu, il a toujours détesté la vérité, et il déteste les enfants de Dieu. Mais il faut se souvenir que Jésus l'a déjà vaincu, en fait. Et Satan, pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'il sait, au fond, qu'il est vaincu, et que c'est qu'une question de temps pour qu'il termine dans les temps ardents de feu pour l'éternité. Alors, parmi toutes les ruses qu'il a utilisées pour nuire aux enfants de Dieu, la première des ruses, c'est le mensonge, hein, évidemment. On l'a vu avec Adam et Ève, on l'a vu plein de reprises, même lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. Il est même face au Fils de Dieu, il a osé. Et la Bible nous dit dans Jean 8, au verset 44, qu'il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il profère le mensonge, et il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, donc si on connaît un peu son ennemi, pas besoin de s'attarder, on sait que déjà le mensonge, c'est sa carte maîtresse. Hein. Donc les calomnies, les fausses accusations sont, en règle générale, son terrain de prédilection. Parce que Satan est celui qui est à l'origine de tout mal, quel qu'il soit. Et son grand plaisir, c'est de le propager le plus possible. Et surtout parmi les enfants de Dieu. Voilà, il ne supporte pas la vérité. Il déguise les faits et remplace le vrai par le faux afin de nous déstabiliser. Mais il faut, nous, que nous nous raccrochions aux Écritures. C'est notre base, notre fondement. Un de nos fondements, en tout cas, qui nous dit que Jésus est la vérité. C'est, Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, si lui est la vérité, ça implique que si nous restons en lui, nous avons la victoire. Alors, le diable ne réussit dans ses plans que si on lui en donne la permission, en réalité. Et à chaque fois qu'on se sent accablé, qu'on accepte ça, qu'on ne proclame pas justement la victoire de Jésus sur notre vie, eh bien, ça veut dire qu'on lui donne cette permission à Satan. Et c'est ce qui fait de lui notre Seigneur, en fait. Parce que ça veut dire qu'on lui obéit à lui, on n'obéit plus à Jésus. Voilà, donc nous, on sait que toute la parole de Dieu n'est basée que sur la vérité, en fait. Il n'y a pas un mot de faux dans la Bible. Alors, tout ce qui n'est pas confirmé par les Écritures ne vient pas de Dieu. Et lorsqu'on est confronté à un mensonge, une doctrine quelconque ou un message, peut-être qu'on entend et voilà, on a envie de vérifier si c'est la vérité, bien, il suffit de chercher dans la parole de Dieu. En ce qui concerne les fausses accusations, elles viendront toujours nous rappeler que si le diable s'attaque à nous, c'est qu'il a peur de ce que nous pourrions devenir plus puissants que lui, en fait. Parce que Dieu a des plans pour chacun de nous. Et le but, c'est qu'on grandisse et qu'on devienne puissant. Puissant dans la prière, puissant dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur veut nous utiliser. Donc voilà, alors 2 Timothée 3, verset 12 nous dit, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est une certitude. On sait qu'à partir du moment où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, Satan, il n'aime pas. Il n'a pas vraiment de raison de nous attaquer ou d'essayer de nous faire tomber si Jésus n'est pas là, ne prend pas la domination, en fait. Puisque la Bible nous dit que tous ceux qui ne sont pas du côté de Dieu sont forcément ennemis de Dieu. Voilà. Donc même ceux qui voilà, ne servent pas le Seigneur mais qui ne font pas forcément des choses de manière méchante, tout le temps préméditées, etc. Ben, ces gens-là, ils servent quand même l'ennemi. Ils servent le diable quand même. Alors, l'idée, c'est plutôt que nous, on reste justement dans la prière et dans la présence de Dieu le plus possible afin de résister au diable. Et de laisser justement, comment on va pouvoir résister au diable? Ben, c'est de laisser justement, quand on est dans sa présence, dans la présence du Seigneur Jésus, de le laisser combattre pour nous. Parce que Jérémie 1 au verset 19 nous dit, Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, si on reste avec Jésus, si on reste en Jésus, eh bien, c'est lui qui combat et c'est lui qui va nous délivrer. Donc, on n'a rien à craindre en fait. Alors, la Bible nous dit que Jésus doit être le seul modèle parfait sur lequel nous devons nous appuyer. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu sur ce que nous dit la Bible justement et comment Jésus il a réagi lorsqu'il était dans ces situations-là. 1 Pierre 2 au verset 21 à 24 nous dit, De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions par la justice. Voilà, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc là, ça peut pas être plus clair, hein. Lui qui n'a jamais commis aucun péché et dans la bouche duquel on n'a trouvé aucune tromperie. À chaque fois qu'on l'a insulté, il n'a jamais rendu une insulte. À chaque fois qu'il a été maltraité, il n'a jamais rendu une seule menace. Mais par contre, il remettait tout ça dans les mains du Seigneur, de son Père. Voilà. Et c'est par lui, justement, par son œuvre parfaite, que on est libéré, nous, du joug du péché. Alors, en tant qu'enfant de vérité, Nous avons cette nouvelle identité qui nous donne accès à la gloire de Dieu. Et Dieu veut nous consacrer tout entier à sa gloire, corps, âme et esprit. C'est pas juste une partie, il nous veut tout entier, en fait. C'est un Dieu jaloux, il ne veut rien que pour lui. Mais surtout, on doit faire attention à nos paroles. Parce que c'est de notre bouche que sortent nos prières, nos bénédictions, et que nous devons déclarer la vérité. Alors si on laisse notre bouche parler n'importe comment, ben, c'est pas, ça colle pas, quoi. Romains 12, du verset 1 à 3, nous dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez, au contraire, à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. » J'étais un peu plus loin dans ce verset, j'étais jusqu'au verset 3 parce que je trouve que, justement, souvent on laisse notre bouche parler de nous-mêmes de manière un peu élogieuse et ça c'est aussi un problème en fait, parce que ça veut dire que on peut vite se laisser corrompre, notre cœur peut se laisser corrompre en fait par nos paroles. Quand on parle de nous justement pour nous élever, tout ça c'est pas bien bon en fait, parce que au contraire le Seigneur nous a montré l'exemple et la Bible nous dit qu'il s'est fait serviteur lui qui était riche, puissant, qui avait toutes les richesses qu'il voulait. Il s'est fait homme et serviteur. Il s'est abaissé. Voilà. Et c'est justement en commettant cet acte d'humilité que Dieu après l'a glorifié et l'a élevé vraiment au-dessus de tout. Donc c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui doit renouveler notre intelligence pour que nous sachions nous taire dans les moments propices, en fait. Sur les moments difficiles, pour ne pas répondre aux accusations, aux attaques verbales, etc. Ou alors, ne pas être tenté, justement, de donner une appréciation de nous-mêmes au-delà de ce que le Seigneur souhaite, en fait, et ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Voilà, pas se vanter, quoi. La Bible nous dit que si on a reçu l'amour de Dieu, l'amour divin, si on est rempli de l'amour divin, on ne se vante pas. L'amour de Dieu ne se vante pas. Alors notre bouche doit être scellée pour ne dire que ce que nous soufflera le Saint-Esprit. Parce que nous appartenons à une autre catégorie de personnes à présent. On a accepté Christ dans notre vie. Et nous ne sommes plus consacrés à la corruption ni à la propagation du mal comme avant, mais bel et bien à la propagation de la vérité et de l'amour de Dieu. Alors c'est pourquoi le diable, forcément mes frères et sœurs, il vous haïra encore plus et il essaiera toujours plus de vous faire tomber. Mais un seul au-dessus de tous vous rendra justice et vous donnera la victoire. C'est Christ. Parce qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors Éphésiens 4, versets 29 et 30 nous dit « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Ceux qui connaissent Dieu ont la responsabilité de renoncer à la calomnie. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. » On ne peut pas faire les deux, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous devons comprendre que nos paroles ont un réel pouvoir, qu'ils soient vivifiants ou destructeurs. Et on doit choisir notre camp. C'est absolument essentiel. Alors, c'est évident que quand on regarde de plus près, on ne peut pas proclamer la gloire de Dieu dans nos louanges et simultanément laisser notre bouche débiter un flot de paroles méchantes et incisives envers n'importe qui, en fait, envers ceux qui nous entourent, que ce soit des frères et sœurs ou des gens non convertis, hein, ou d'une autre religion, je ne sais pas. Enfin, peu importe. Ça, c'est pas du tout compatible, en fait, hein, les uns et les autres. Nous sommes appelés à être puissants dans le combat spirituel. On est appelés à la proclamation de la vérité. On est appelés à l'intercession dans la prière, à la louange qui ouvre le ciel, qui fait pleuvoir les bénédictions. On est appelés aussi à faire preuve de bonté et de douceur, nous dit la parole de Dieu, à supporter les difficultés en souffrant injustement. Bah oui, comme Christ, en fait, à l'image de Christ. Même si c'est dur. Voilà, notre espérance, elle est en lui. Et on sait qu'il restera fidèle, il restera à nos côtés, il nous laissera pas, on l'a vu tout à l'heure. Ne crains rien, parce que c'est moi qui te délivrerai, il nous dit. Voilà. Parce que c'est une grâce aux yeux de Dieu, en fait, de pouvoir souffrir de cette manière-là. C'est une vraie grâce, et voilà, c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à ressembler à Jésus. Alors comment pourrions-nous faire le jeu du diable en même temps, en fait? C'est pas possible. C'est pour ça qu'en fait, le diable, il va réussir parfois à nous mettre à terre. Parce que si on ne reste pas ferme et vigilant, quand il va nous frapper, on va fléchir les genoux en recevant les coups. On ne sera pas assez solide. Or, c'est bien devant Jésus seul qu'on a fait le serment de fléchir les genoux, nous, enfants de Dieu. Donc, il faut faire attention. Satan nous connaît très bien, et il va forcément appuyer sur les bons boutons. Voilà, il faut vraiment avoir revêtu l'armure céleste. Alors, lorsqu'on laisse notre bouche exprimer justement nos pensées les plus sombres, eh bien, on participe à la calomnie dont Dieu a tant horreur et qui nous a demandé justement de ne pas pratiquer. Et on se coupe totalement de la relation avec son esprit, en fait, hein, son esprit saint. La calomnie, c'est une pratique qu'on doit vraiment mettre à mort. Mais vraiment, c'est pas juste évincer, c'est vraiment faut la mettre à mort si on veut suivre Jésus. Romains 6, verset 11 nous dit: Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, pour réussir à guérir en fait de ce fléau de la calomnie, eh bien, il faut réussir à pardonner aux gens aussi. Une des clés, c'est ça, c'est d'accorder le pardon aux gens qui nous ont mais vraiment offensés au plus profond, blessés. Et demander au Seigneur qu'il nous inonde de son amour divin et surnaturel, en fait. Cet amour dont Jésus a fait preuve en toutes circonstances, parce qu'il était parmi les hommes, pour justement réussir, que nous puissions réussir à aimer ceux qui nous persécutent, comme il nous le demande, en fait. Ça, c'est une des choses les plus importantes. C'est une des choses, lorsqu'on arrive à ce stade où on laisse le Seigneur travailler en nous. C'est difficile, mais c'est une telle joie, en fait. Je crois que ça, la joie ineffable dont parle Paul, c'est aussi ça. Voilà. C'est lorsqu'on est complètement détaché de toutes les offenses qu'on a pu nous faire endurer. Mais en fait, c'est pas nous qui accordons le pardon, hein. C'est le Seigneur qui nous permet justement de nous détacher de tout ça. Donc ce pardon-là, en fait, il est divin, mais c'est merveilleux parce que on a conscience que nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Et c'est là qu'on comprend les paroles du Seigneur qui nous disent que si on accorde ce pardon aux gens qui nous ont blessés, on les libère. On les libère d'un poids, justement, de ce non-pardon les enferme dans une captivité, eux aussi, d'une part nous, mais eux aussi. C'est vraiment très important d'arriver à saisir ce pardon divin et surnaturel que le Seigneur nous donne, nous accorde. Voilà, donc en conclusion, Eh bien, il faut que nous arrivions à protéger notre cœur, parce que la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est de notre cœur que viennent toutes ces mauvaises choses, toutes ces iniquités. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de place au royaume des cieux pour toutes les personnes qui pratiquent cela, ces choses-là. Donc, il faut protéger notre cœur. C'est important. Même s'il a été blessé, même si il est en ruine, il faut l'amener chez le potier. Voilà, c'est le Seigneur qui va recoller les morceaux. Matthieu 15, verset 18 nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Jésus nous purifie par son pardon et nous a déjà donné la victoire qu'il a lui-même obtenue sur toutes les autorités, sur toutes les dominations spirituelles, les principautés de ce monde. Alors ayons foi en lui, louons-le pour ses bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Mais apprenons, demandons-lui à nous aider à maîtriser notre langue. Je termine avec un dernier verset, hein, enfin, Jacques 3, du verset 5 à 10, en fait, 5 derniers versets, mais un dernier passage sur lequel je vous invite tous à méditer. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voilà, je vous invite à méditer sur ce passage qui reprend le passage qu'on a lu dans Éphésiens 4, versets 29 à 30. Voilà. Donc, si c'est bien précisé de cette même manière deux fois, c'est que c'est très important, en fait. Voilà, donc eh bien, je vous souhaite d'être bénis par ce message, mes frères et sœurs, et que la grâce du Seigneur Tout-Puissant nous inonde abondamment. Merci, shalom à tous.